Bien chers frères et sœurs en la foi, bonjour. Nous découvrons au fil de nos méditations quelques secrets pour développer et enrichir notre vie de prière. Premièrement, relever dans l'enseignement de Jésus les sujets de prière qu'il place lui-même sur notre cœur. S'il nous demande d'intercéder pour des sujets précis, il est impératif que nous lui obéissions, et non pas une fois parce que le sujet nous est présenté, mais régulièrement. Deuxièmement, découvrir ce pourquoi Jésus priait lui-même. Il est notre divin berger. Suivons-le dans les sentiers de la prière. Troisièmement, relever dans l'enseignement des apôtres les sujets de prière qu'eux aussi plaçaient sur le cœur des premiers chrétiens. Et quatrièmement, découvrir ce pourquoi les apôtres eux-mêmes priaient avec ardeur et avec persévérance. C'est ce que nous ferons au fil de notre lecture de la parole de Dieu, si le Seigneur le permet. Je voudrais m'arrêter avec vous sur une parole de l'apôtre Paul dans son épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 12. « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Dans le chapitre 1er de cette même épître aux Colossiens, au verset 7, Paul parle d'Épaphras en ces termes. « Notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. » Imitons cet homme de Dieu. Ne vivons pas notre vie chrétienne repliée sur nous-mêmes, égoïstement, mais mangeons le pain du service, du travail pour Dieu, avec les autres. Et ce, non pas de temps à autre, sous l'impulsion d'élan charnel, mais avec fidélité. Nous apprenons par ailleurs, dans l'épître à Philémon au verset 23, qu'Épaphras était aux côtés de Paul, prisonnier à Rome. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ. Ses épreuves, ses souffrances n'altéraient en rien sa vie de prière et sa charité pour ses frères et sœurs en la foi. Oh, qu'il en soit ainsi de vous, mon frère, ma sœur, que votre épreuve ne vous plonge pas dans l'abattement, le découragement, la lassitude, voire l'aigreur, le doute ou même la révolte, mais fortifiez-vous dans la grâce de Jésus-Christ. Le Seigneur est votre force. Il est celui qui vous rend vainqueur. N'en doutez jamais. Avec lui, vous franchirez la muraille qui est devant vous et qui vous paraît insurmontable. Dieu ne change pas. Il demeure le Dieu des miracles, des prodiges et des exaucements merveilleux. Dans notre texte d'aujourd'hui, nous pouvons noter quelques caractéristiques de la vie de prière d'Épaphras. Premièrement, sa persévérance. Paul écrit « Il ne cesse de combattre ». Pour ce qui concerne notre piété, et toutes les vertus chrétiennes, un mot devrait résumer notre manière de vivre. Toujours. Toujours croire, toujours obéir, toujours servir, toujours aimer, et bien évidemment, toujours prier. Rappelez-vous à ce sujet, Jésus nous a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Évangile de Luc, chapitre 18, verset 1er. Deuxièmement, la vie de prière d'Épaphras n'était pas la promenade d'un flâneur du dimanche, mais le combat acharné d'un soldat de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre, écrit Paul. Le mot grec signifie combattre pour quelque chose, ce qui veut dire que l'on ne prie pas pour prier, mais on intercède en ayant un objectif très précis devant soi. Le mot signifie aussi combattre contre quelqu'un. Avons-nous conscience de l'ennemi qui est en face de nous, de ses desseins, de sa force? Le diable n'est pas impressionné par les prières faites du bout des lèvres et du cœur. Les prières routinières, légères, superficielles, distraites, mais il redoute les prières ardentes. Le mot du texte original signifie encore concourir dans les jeux publics, lutter, disputer le prix. Il y a un enjeu, une victoire, un prix à remporter. Toute l'énergie de l'athlète est alors mise en œuvre. Eh bien, qu'il en soit ainsi de notre vie de prière. Il faut noter au passage qu'à l'époque, dans certains jeux publics, la lutte allait jusqu'à la mort d'un des deux adversaires. Mes frères et sœurs, réalisons que dans certains de nos combats spirituels, il en va de la vie, du salut éternel de ceux pour lesquels nous prions. Dans la racine du mot « combattre » en grec se trouve le terme « agonie » qui signifie « un combat, une lutte » et au sens figuré « inquiétude, angoisse ». Nous trouvons ce mot en Luc chapitre 22 verset 44 à propos du combat de Jésus à Gethsémané. « Étant en agonie, écrit l'évangéliste, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » C'est dire l'intensité de la lutte livrée par Jésus contre les puissances de l'enfer dans ce moment-là. Comme nous avons besoin de grandir dans l'engagement de tout notre être dans la prière. Troisièmement, notons encore la sollicitude d'Épaphras pour ses frères et sœurs de Colosse. Il ne cesse de combattre pour vous. Élargissons-nous, mes frères et sœurs, que notre cœur s'ouvre tout grand afin que les autres ne soient pas à l'étroit au-dedans de nous. Aimons sans partialité et prions pour les autres sans faire exception de personne. Quatrièmement, enfin, Épaphras combattait dans ses prières. Il y a différentes façons de combattre, et nous avons à notre disposition différentes armes. Nous ne pouvons pas nous passer de ces armes, d'aucune d'elles. Mais la prière est l'arme que la chair repousse particulièrement. C'est pourquoi ne prions pas seulement quand nous en avons envie, quand nous nous y sentons poussés. Le diable s'arrangera toujours pour que nous n'ayons jamais envie de prier. C'est pourquoi, finalement, la première victoire à remporter dans ce combat est très certainement une victoire sur nous-mêmes. Que Dieu fasse de chacun de nous un vainqueur pour sa gloire. Amen.